RFI.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui va parler aujourd'hui et qui va même faire parler une bibliothèque. La bibliothèque parlante, c'est le nom d'une grande manifestation qui va se dérouler les 26 et 27 mai prochains à la Bibliothèque nationale de France où on va entendre un certain nombre de manifestations sonores, des voix, des musiques, des archives, des lectures, peut-être d'autres choses dont va nous parler Thierry Grillet qui est à l'origine de cette manifestation et qui est directeur de la diffusion culturelle à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Thierry Grillet.
Bonjour.
Alors dites-nous un petit peu ce que c'est que cette bibliothèque parlante, parce que le nom est très évocateur, il donne envie qu'on tende l'oreille, mais si on tend l'oreille, on l'attend vers quoi ?
Alors ça faisait longtemps qu'on voulait faire un festival. Chaque grande institution a son festival et on souhaitait faire quelque chose qui soit au plus près de la bibliothèque. Et que faire de plus proche de la bibliothèque que de parler des livres et... de faire parler les livres, car en réalité, notre bibliothèque est un grand compendium, un grand hangar dans lequel il y a beaucoup de choses enregistrées. Je dis enregistrées parce que c'est à la fois l'enregistrement écrit, en réalité l'écriture est l'enregistrement de la parole, mais sur papier, et puis il y a des enregistrements, comme nous le faisons encore aujourd'hui, à la radio, mais ailleurs aussi, qui ont constitué des fonds particuliers, comme les fonds des archives du musée de la parole, les archives de la parole, que nous conservons depuis les années 1910 à la bibliothèque.
Donc il y a des enregistrements sourds et des enregistrements sonores.
Voilà,
c'est vrai
exactement.
Que c'est quand même une grande originalité de faire parler une bibliothèque puisque on a toujours cette impression que
on est dans le silence.
Oui, exactement.
Eh ben c'est
hôpital silence et bibliothèque silence. Je me souviens qu'étant adolescent, quand j'allais à la bibliothèque de mon quartier, les bibliothécaires, et ils avaient sûrement raison, me tensaient parce que je faisais trop de bruit et que je parlais trop fort et j'en ai gardé cette impression que chut. Dans la bibliothèque, la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est « chut ». Or, c'est pas vrai, pas toujours.
Alors, vous savez d'où vient le silence en bibliothèque, parce que au départ, au Moyen-Âge, on lit à haute voix les livres. On les lit à haute voix et pour la première fois...
Et on les lit
fois,
à haute voix pour les gens qui ne savent pas lire, bien souvent.
Voilà. Et c'est Ambroise qui installe le silence dans les bibliothèques à partir du 9e, 10e siècle. Donc à ce moment-là, on va avoir des salles dans lesquelles on va pouvoir lire en silence. C'est une très vieille tradition des bibliothèques.
Ce qui veut dire que les bibliothèques, a priori à ce moment-là, ne sont plus ouvertes qu'aux clercs, c'est-à-dire qu'à ceux qui savent lire. Alors que si on lit à haute voix, on peut lire pour des gens qui ne sont pas alphabétisés, qui n'ont pas accès à la lecture.
Bien sûr, c'est d'abord un lieu de cléricature, c'est un lieu où on s'installe pour étudier les textes, les écritures. On s'installe aussi dans les bibliothèques pour copier, recopier. Donc c'est une activité qui demande un silence profond. Alors évidemment, c'est assez paradoxal de dire, dans cette bibliothèque qui est la grande bibliothèque de recherche en France, on va faire une bibliothèque parlante. C'est comme si, finalement, comme dans les paroles gelées de Rabelais, vous savez, cet épisode dans le Carlivre où les paroles sont gelées. Eh bien, on va les dégeler, on les dégèle pour un week-end, on prend des textes, et ces textes qu'on peut lire en silence, tout d'un coup, il y a des lecteurs qui viennent les réveiller, qui viennent les mettre en scène et viennent les diffuser auprès d'un large public. Alors, comme vous le voyez, le programme part dans tous les sens, puisqu'il y a toutes sortes de textes, des textes littéraires, des textes philosophiques, mais aussi des textes scientifiques, puisque nous avons demandé à Jean-Claude Ameisen de venir lire un certain nombre de textes de son choix, qui sont des textes scientifiques, des textes poétiques, à sa manière.
Qui est journaliste et producteur de radio et qui a créé cette émission connue qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Donc c'est de là qu'il voit un petit peu plus loin que s'il était Darwin lui-même.
Voilà.
Et quand on est si haut, c'est vrai qu'on peut donner de la voix.
Voilà, on a demandé à Jean-Loup Graton, qui est le commissaire de cette manifestation, c'est lui qui a réalisé l'ensemble du programme, de composer un programme où finalement on trouve tous les aspects de la voix, à la fois les aspects textes, je viens d'en parler, toutes sortes de textes scientifiques, poétiques, philosophiques, mais également toutes sortes de types de voix, c'est-à-dire la voix des comédiens, la voix de chanteurs, puisqu'il y aura Arthur H. qui viendra lire, mais également aussi des voix enregistrées. Les voix enregistrées, ce sont celles, j'en parlais tout à l'heure, qui sont conservé au département de l'audiovisuel de la bibliothèque, les voix des archives de la parole. Mmh. Alors les archives de la parole, je m'y arrête une seconde parce que c'est une histoire assez formidable. C'est un linguiste du début du XXe siècle qui s'appelait Ferdinand Bruno.
Grand linguiste
de la Sorbonne, qui en 1909 et en 1911 va se promener en France et à Paris avec un appareillage très très impressionnant pour enregistrer des sons, enregistrer aussi une partie, si vous voulez, de cette culture paysanne qui est en train de disparaître à ce moment-là déjà. Donc des veillées, beaucoup de patois, mais également aussi tout un ensemble de cris qui sont des cris et des bruits qui
les
sont les bruits
de Paris, les cris des marchands, les cris des marchands, de la rue, ce que c'est aussi, que la sonorité d'une ville.
Oui, mais aussi les cris des gens qui font avancer le bétail, les bouviers, les bergers, tout un ensemble de choses, en effet, qui dessinent un paysage sonore qui n'existe plus. Ce sont du reste une partie de ces archives qui sera accessible au moment des siestes littéraires durant le festival de la bibliothèque parlante.
Oui,
pas seulement ces cris, hein.
De voir comment justement à la fin du 19e siècle ou même au début, parce que par exemple Chopin s'y était beaucoup intéressé quand il était dans le Berry chez George Sand,
bien sûr.
Il écoutait les cris des bouviers et il disait justement que de temps en temps il en avait tenu compte, ou en tout cas qu'on peut en retrouver certains échos, faut avoir l'oreille fine, hein, dans certaines de ses modulations ou certains de ses phrasés. Mais c'est vrai qu'il y a les premiers musicologues qui, au début du XXe siècle, avec des appareils impressionnants qui ont des pavillons gigantesques, on voit des Américains, par exemple, qui ont, il n'y en avait pas beaucoup, mais heureusement il y en avait, qui allaient dans des tribus indiennes. C'était quand même mal vu pour les Blancs d'aller voir les Indiens à l'époque, pour les faire chanter, pour essayer de recueillir des incantations, des chants sacrés, etc. Et on a eu ça à Paris aussi grâce à Ferdinand Bruno, c'est un trésor incalculable.
En Allemagne, il y a aussi les frères Grimm qui se promènent en fait dans la campagne pour récupérer. Alors là, ils n'enregistrent pas, mais ils notent tout un ensemble de contes. Et il y a énormément de campagnes, si vous voulez, à la fois ethnologiques, mais ethnomusicologiques dans ces campagnes pour récupérer une partie du patrimoine culturel et civilisationnel de ce monde qui est en train de disparaître. C'est à ce moment-là, du reste, que on est dans une période très scientifique. On met au point à la fois, disons, des outils d'enregistrement, mais aussi des outils de mesure et d'étude de la parole. Hein, la parole est au centre de l'intérêt des scientifiques. Et alors, à la fin du 19e, il y a un collectionneur, s'appelle Charles Cros, qui va rassembler tout un ensemble de machines à enregistrer, qu'on présentera d'ailleurs au moment du festival de la bibliothèque parlante à la bibliothèque, et on voit se développer tout un ensemble de nouvelles disciplines, la phoniatrie, la phonologie. Des gens comme l'abbé Rousselot inventent des laryngographes ou des labiographes. Voilà, ce sont des choses qui intéressent au plus haut point tout un ensemble de scientifiques. Marais, de son côté, enregistre le mouvement. Bien là, on enregistre la voix, on enregistre les mouvements, disons, anatomiques de production de la parole. C'est une des choses que nous allons présenter en même temps que tout un ensemble de manifestations où on entendra des grands comédiens dire des grands textes.
Eh bien, je vous propose d'écouter quelques secondes de la belle trompette bouchée et ronde d'Éric Truffat, qui est l'un des musiciens qui participera justement à cette bibliothèque parlante.
Barika sanum bembolo la
Le timbre vibrant de Rokia Traoré et la trompette d'Éric Truffat. Éric Truffat qui sera donc avec Sandrine Bonner dans le cadre de cette bibliothèque parlante pour lire et accompagner des textes de Marguerite Duras. Alors, Thierry Grillet, un mot justement sur cette programmation et sur les textes qu'on pourra entendre. Des textes bien connus, des textes moins connus parfois et qui mettent en abîme, qui donnent un éclairage particulier à des héros ou à des écrivains, je pense à la fois à Maigret et à Simenon. Je sais qu'il y a des lectures, des mémoires de Maigret. Que sont donc ces mémoires de Maigret? Est-ce que c'est vraiment un titre de Simenon ou bien est-ce que vous avez choisi un certain nombre d'éclats pour essayer de trouver des souvenirs du commissaire?
Alors, c'est une production des comédiens de la Comédie française hein, qui ont rassemblé un certain nombre de textes autobiographiques. En fait, Simenon a très tôt produit de l'autobiographie. Je crois qu'il en a produit une en 1950, donc assez tôt dans sa carrière. C'est un homme qui est né à Liège et qui a eu une vie absolument incroyable, qui était d'une productivité fabuleuse. Hein. Il a écrit près de 200 romans et sous son nom et beaucoup évidemment d'une série et beaucoup d'une série très vite. Pratiquement en une semaine. Mmh. Et ce texte, il a un intérêt. C'est les mémoires de Maigret, c'est les mémoires qu'il a rédigées lui-même. Il a vraiment pris au sérieux son personnage et il a dicté ses mémoires. C'est assez curieux parce qu'il ne les a pas écrites, il les a dictées. Alors, quand on voit que la création elle-même est parlée, que l'écriture est parlée, de l'écriture à la lecture, parlée, il n'y a qu'un pas, un pont, que franchissent en fait les comédiens de la Comédie française.
Mais ça c'est tout à fait intéressant pour voir ce que c'est que l'acte de création. Alors vraisemblablement quand Simenon écrivait, il n'écrivait pas de la même façon. Mais vous le dites vous-même, il écrivait beaucoup. Donc je ne sais pas s'il écrivait sans rature, mais quand même, il y avait un vrai flot de,
ah, il
de
avait
la
un
narration
vrai, il avait,
de Simenon,
absolument.
Dont on a une sorte d'écho quand justement il invente, il compose, on peut dire, en dictant.
Il invente ses romans policiers et il organise sa production dans la semaine. Chaque jour, un chapitre, et à la fin de la semaine, le livre. C'était vraiment une industrie, mais enfin, alors, ça a des limites, évidemment, il y a pas mal de redites, certains des critiques littéraires ont, au fond, beaucoup critiqué cette rapidité en insistant sur le fait que, finalement, c'était un écrivain des états et pas de l'action. Ce sont des romans assez statiques. Il y a beaucoup d'atmosphère, hein. Quand on est dans un Maigret,
on est dans
la Belgique, dans quelque chose.
Ouais. Et on est entre la fine et la bière, souvent.
Il se passe peu de choses, finalement, par rapport à d'autres romans policiers. Mais c'est pratiquement l'intérêt. C'est l'intérêt de Maigret, c'est l'intérêt des romans de Simenon. C'est un peu ces atmosphères-là, c'est un peu cet imaginaire-là que les lectures des comédiens de la Comédie française vont essayer de restituer au moment de... Alors, ça sera le samedi 26 mai, j'en profite pour le dire, dans le grand auditorium à 14h.
Alors, dans le cadre de ces lectures,
mais
il arrive souvent... Oui, il y a beaucoup d'autres choses qui vous immergent. Et j'emploie ce verbe par rapport à plusieurs propositions, en particulier le 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, dont il y aura des lectures, parce que là, en effet, on a beaucoup d'eau au-dessus de nous, ou bien les lectures dans le noir, et là, on est immergé, non pas dans l'eau, mais dans l'obscurité.
C'est vrai.
Alors, c'est une Arlette Desmaux qui le propose. Je ne sais pas si c'est un pseudonyme, j'imagine que oui, mais après tout, on n'en est jamais sûr. Ces lectures dans le noir, on en a déjà parlé dans la danse des mots parfois, mais pas récemment. Alors, rappelez-nous un petit peu, Thierry Grillet, ce que c'est.
Parce que vous avez signalé deux choses, en fait, deux manifestations, les lectures de 20 000 lieues sous les mers et puis les lectures dans le noir. Et ce sont deux types de lectures immersives, en fait. La lecture comme expérience. la lecture comme expérience, pas seulement comme déchiffrement, comme apprentissage de quelque chose, la lecture comme expérience. Le multicanal, qu'est-ce que c'est que le multicanal ? Le multicanal, c'est installer des écouteurs, hein, comme on dit des regardeurs ou des spectateurs, mais des écouteurs dans une salle environnée de 8 appareil diffuseur du son.
Vous dites ça des écouteurs plutôt que des auditeurs, donc.
Oui, là, ouais. Parce que c'est l'écoute. Oui. Hein, c'est vraiment l'écoute. Et ce multicanal installe en quelque sorte la diffusion comme le ferait la réalité virtuelle. C'est-à-dire que véritablement, on est au milieu d'un milieu, puisque en réalité, on est dans l'eau avec 20 milieux sous les mers, avec un univers qui est tout à fait particulier, puisque c'est l'univers du silence dans lequel il y a des bruits, des lectures, des mots qui apparaissent. L'autre pari, c'est une lecture dans le noir.
Alors, avant d'en venir à la lecture dans le noir, je voudrais signaler que cette lecture de 20 milieux sous les mers s'accompagne d'une commande musicale au percussionniste, mais aussi compositeur Didier Benetti, qui va donc, avec des musiciens de l'Orchestre National de France, donner cette musique qu'on n'a encore jamais entendue et qui va être l'éclos de ce clapotis très particulier qui est le clapotis sous-marin.
Bah oui, on sera en réalité, vous savez, dans cette fameuse bibliothèque, puisque dans le Nautilus, Nemo avait installé une bibliothèque dans laquelle il avait
Nautilus,
son...
C'est le sous-marin.
C'est le sous-marin de
20
milieux sous
les mers. C'est le
capitaine,
le héros de Jules Verne.
Voilà. Ouais. Le capitaine Nemo qui est dans cette bibliothèque salon de musique dans laquelle il joue de l'orgue. Et voilà comment, finalement, on installe des situations très particulières d'écoute de texte. Donc là, 20 milieux sous les mers. Et puis ensuite, avec, en effet, Arlette des mots.
Oui, le je même ne pourrais jour, pas vous hein, dire, c'est-à-dire oui, samedi 26.
Absolument. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un pseudonyme. Mais vous savez que dans le 17e, il y a un boulanger qui s'appelle Monsieur Pain. Je ne sais pas si lui aussi...
Et dans le 18e, il y en a un qui s'appelle Pimpin. Ah, ça, oui. Je pense que c'est pas son vrai nom.
Et vous avez dans le 17e aussi un boucher qui s'appelle Monsieur Mouton.
Eh bien écoutez, honneur à Monsieur Mouton et merci de nous inviter donc à cette bibliothèque parlante.
L'étoile nommée Lou est aussi belle, aussi voluptueuse qu'une jolie fille vicieuse. Elle est assise dans un météore agencé comme une automobile de luxe. Autour d'elle se tiennent les autres étoiles, ses amies. Autour de l'automobile stellaire s'étend l'infini éthéré. Les planètes rutilantes se montrent tour à tour comme des déesses calipiges sur l'horizon. La voie lactée monte comme une poussière derrière le météore automobile. Des guirlandes d'astres décorent l'infini. Le météore automobile, luxueux et architectural comme un palais, est monté sur un bolide énorme qui tonne à travers les cieux qu'il sillonne d'éclairs versicolores et durables comme de merveilleux feux de Bengale et doux comme des baisers éternels et des rayons de soleil ombragent ainsi de beaux arbres printaniers la route diaphane.
Lou, mon étoile, dans La danse des mots, avec la voix d'Arthur Hache, qui ici est accompagné par Nicolas Repac, et qu'on entendra, puisque c'est un habitué des lecteurs, dans le cadre de la bibliothèque parlante, le premier jour de ce festival, c'est-à-dire samedi à 15h30, au Grand Auditorium. Ce qui me fait penser, Thierry Grillier, que c'est un des avantages de ces festivals, il faut choisir. Il y a beaucoup de choses qui se proposent aux oreilles des auditeurs au même moment. Donc si on va écouter ceci, on ratera cela, etc. Il faut faire son menu. Il y a quand même une offre extrêmement importante.
Alors oui, on a essayé tout de même de faire en sorte qu'on ne rate pas, disons, un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'ateliers et de siestes littéraires qui sont là en continu. Donc là, on vient quand on veut et c'est c'est ouvert, mais nous avons essayé d'organiser la programmation de telle manière qu'on puisse en effet passer de Arthur Hache à par exemple Mathieu Amalric la même après-midi, puisque Amalric va lire L'homme sans qualité à 17h dans le Grand Auditorium. Alors c'est toujours assez intéressant de demander à des grandes voix, que ce soit un chanteur comme Arthur Ashe ou un grand comédien comme Mathieu Amalric, de faire ce qu'ils veulent, d'aller vers les textes qu'ils veulent. Vous vous souvenez, Depardieu, il y a quelques années, avait été fasciné par les confessions de Saint-Augustin. Eh bien là, c'est la même histoire de passion entre Amalric et puis l'homme sans qualité. Ça fait quelques années qu'il lit... qu'il a pris au fond ce livre déjà, évidemment, qui est un livre mythe, hein, c'est un grand livre monde écrit dans les années 1930 par Robert Musil. C'est un livre inachevé, un livre énorme, 2000 pages.
Et un livre traduit, puisque c'est un livre allemand au départ.
C'est un livre allemand, autrichien plus exactement,
oui,
puisque
écrit en allemand.
Voilà, ouais. Musil était autrichien. Et c'est cet amour du texte qui porte un comédien à entrer en sympathie avec non seulement le contenu, une histoire, des mots, et aussi en quelque sorte une petite musique, comme disait Céline, la petite musique de chacun des livres. Et là, c'est ça qui est formidable, c'est que Amalric vient avec sa lecture de chevet, c'est-à-dire une lecture qu'il fait régulièrement, qu'il accompagne jour et nuit, et peut-être plus la nuit que le jour en réalité, puisque c'est En somme, l'homme sans qualité, c'est un homme qui est perdu dans une nuit profonde, après la Première Guerre, hein, c'est le fameux Ulrich, c'est un mathématicien de 32 ans, qui entre dans une réalité qu'il ne comprend pas et qu'il va progressivement perdre de vue. C'est donc cette lecture-là, cette lecture amicale, cette lecture existentielle, puisque Amalric, au fond, vit avec ce livre. Il y a des gens qui vivent avec Proust sur leur table de chevet. Bah, lui, c'est l'homme sans qualité.
Oui. Alors, vous parlez de lecture en sympathie. Vous entendez ce mot presque dans son sens acoustique. Une lecture qui fait vibrer autre chose, qui fait vibrer un autre texte, avec une attention toute particulière, justement, à la longueur du souffle. Je vous dis ça à propos d'Anna Mouglalis, par exemple, qui va lire des extraits de Anguille Souroche, d'Alice Amir, puisqu'on sait que le livre d'Alice Amir, dont d'ailleurs il était venu nous parler dans la danse des mots, c'est un livre d'une seule phrase, d'un seul souffle, j'ose pas le dire, parce qu'il y a 300 pages, donc on peut pas, techniquement, dire 300 pages sans reprendre
respirer.
Son souffle, à moins d'avoir une respiration continue, comme les saxophonistes.
Il y a des virgules.
Il y a des virgules, mais justement, on donne cette impression d'une
continuité.
Oui.
D'une continuité. Mais vous savez, il y a beaucoup d'écrivains au XXe siècle qui l'ont fait. Je pense en particulier à Thomas Bernhard, qui était affecté d'ailleurs d'un souffle, il était asthmatique. Et je me demande si, comme Proust d'ailleurs, qui était asthmatique, il fit des longues phrases, si finalement la longue phrase, et là en l'occurrence la phrase d'Amir est une longue phrase de 360 pages, Anguille Souroche, n'est pas liée au fond à quelque chose de très anatomique, ce qui nous ramène d'ailleurs à toutes les études et toutes les machineries qu'on développe à la fin du 19e pour étudier la voix, pour étudier le fonctionnement de la voix et de la parole. Mais c'est le texte d'Amir est un long texte de, comme vous l'avez dit, c'est un roman, hein, qui n'est fait que d'une seule phrase. Il y en a eu un aussi récemment, il y a quelques années, le prix Goncourt, qui s'appelait, alors voilà, Mathias Hénard, qui fait aussi un livre d'une seule traite, d'une seule phrase.
Oui, c'est boussole.
Aussi c'est boussole,
chose.
Voilà, oui. C'est boussole. Mais c'est dans l'idée d'un roman d'une seule phrase, il y a bien sûr la performance, mais il y a aussi l'idée que la phrase est une sorte de périscope, de caméra qu'on passe et qui, en quelque sorte, caresse le paysage, oui. Caresse les personnages sans s'arrêter, dans une espèce de continuité sensuelle, oui. En réalité.
Et hein. C'est un écho de l'histoire qui est donnée, puisque par exemple dans le roman d'Alice Amir, il s'agit d'une femme qui se noie, donc c'est sa dernière respiration.
C'est sa dernière respiration.
C'est sa dernière apnée avant la mort, et c'est quelque chose
qui ne veut pas finir.
Oui, c'est une situation qui a fasciné d'ailleurs bien des romanciers, justement, qui se coulent comme ça dans une phrase, et qu'on peut entendre beaucoup plus, ou en tout cas de façon différente, si on les écoute que si on les lit. Alors, il y a aussi une proposition qui s'appelle « Délire des mots » et qui est une pièce. Alors, qu'est-ce que vous entendez par une pièce ? Une pièce composée pour l'Omni. Est-ce que c'est une pièce composée à la manière d'une pièce musicale ou bien est-ce que c'est une pièce à la manière d'une pièce de théâtre ?
Non, Délire des mots, c'est une pièce de Jonathan Pontier qui est composée pour l'Omni Moulay par Patrice Moulay. Patrice Moulay est un artiste qui a créé une machine sonore particulière qu'il a appelée l'Omni Moulay et qui est en fait une sorte de piano à son. Voilà, c'est une sorte de grand piano à son dans lequel il fait du sampling. Donc c'est un peu ce sampling-là, cet assemblage de sons qu'on a connu depuis maintenant, depuis une trentaine d'années, hein, qui est vraiment la marque finalement de la création musicale depuis le rap qui a installé en fait le sampling au cœur d'un nouveau type de musique. Et l'intérêt du sampling, c'est l'intérêt, au fond, de jouer avec l'archive des sons, avec l'histoire de la musique, avec l'histoire des chansons. Et je crois que ça marque véritablement, disons, l'âge post-historique ou post-moderne de la musique, qu'elle soit de variété, qu'elle soit rock, qu'elle soit pop, l'idée qu'on joue, en fait, avec l'histoire.
Ça donc les 26 et 27 mai à la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, merci beaucoup Thierry Rillier de nous avoir présenté tout cela, y compris par exemple les leçons de lecture à voix haute de Gabriel Dufay auxquelles on pourra assister.
Oui, parce que c'est pas seulement quelque chose de passif, la Bibliothèque parlante. On est invité à faire plein d'ateliers.
On écoute et on fait parler ceux qui écoutent. Merci de nous avoir présenté tout ça dans cette danse démo proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.